Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir pour ces deux heures d'infos, de débats et de points de vue. 100 milliards d'euros et moi pour échanter le chanteur du tronc ce soir. Cette fois, ça y est, le Premier ministre a dévoilé le détail des mesures du plan de relance, baisse massive des impôts pour les entreprises, transition écolo. Mais concrètement, à quoi va servir ce plan et cet argent? Qui paiera l'addition? Et les ménages, en sont-ils les grands perdants? On posera la question à 18h20 à l'ancien ministre et président de la Commission des Finances, Éric Woerth. C'est une vidéo qui suscite la polémique. Emmanuel Macron qui s'en prend à un journaliste français du journal Le Figaro. C'était lors de son déplacement au Liban, on en parle ce soir avec les grandes voix, à 18h30. Et puis entre 19h et 20h, le Club des idées d'Europe Soir, votre nouveau rendez-vous pour comprendre le monde qui change, débattre, réfléchir et prendre le temps de se faire son opinion. Ce soir, avec les invités du Club des idées, nous reviendrons évidemment sur les enjeux de ce plan de relance historique. La France a un tournant, pourra-t-elle se relever et à quel prix? Les réponses avec nos invités à 19h20. Mais d'abord, le journal avec vous, Isabelle Millier, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Il est 18h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Une ambition et une ampleur historiques. 100 milliards, c'est près de 4 fois plus que le plan de relance qui avait été mis en œuvre pour faire face à la crise de 2000.
Des effets concrets et perceptibles pour le plus grand nombre. C'est la promesse aujourd'hui du Premier ministre qui présentait cet après-midi donc ce grand plan de relance.
Sur ces 100 milliards d'euros, la transition écolo se taille la part du lion avec 30 milliards, notamment pour la rénovation thermique des bâtiments publics et privés.
35 milliards seront consacrés à la compétitivité des entreprises et à l'innovation. Les entreprises qui verront leurs impôts de production baisser. On vous détaille tout, bien sûr, dans un instant.
À la une également ce soir, des centaines d'infectiologues portent plainte contre le professeur Raoult, accusé d'avoir fait la promotion d'un traitement qui n'a pas démontré son efficacité.
Le Grenelle des violences conjugales, c'était il y a tout juste un an, mais certains témoignages montrent qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail dans ce domaine. Un Kazakh remporte la 6e étape du Tour de France dans les Cévennes, Alexei Lutsenko. Arrivé seul sur la ligne d'arrivée au terme d'une échappée, le Britannique Adam Yates conserve le maillot jaune. La Bourse de Paris l'a terminé ce soir en baisse, plombée par le plongeon des valeurs technologiques à Wall Street. L'indice CAC 40 a perdu 0,44% à 5009 points.
Et puis la tendance météo avec vous, Anissa, deux salles, deux ambiances demain au programme.
Oui, c'est exactement ça, Julien. Sur une grande partie du pays, nous aurons une journée estivale, mais aussi un goût d'automne sur le nord-ouest. Il va faire chaud demain, voire même très chaud. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Trois piliers, 70 mesures, 100 milliards d'euros. On a donc enfin le détail du plan de relance du gouvernement pour redresser l'économie française.
100 milliards d'euros et trois priorités, la compétitivité des entreprises, la cohésion sociale et territoriale et bien sûr la transition écolo.
France Relance est d'abord un plan destiné à servir le climat et la biodiversité. Il consacre 30 milliards à cette transition, ce qui revient à plus que doubler, mesdames et messieurs, dans les deux prochaines années, les investissements que l'État consacre habituellement à l'environnement, alors même qu'ils étaient déjà en forte progression.
Le gouvernement qui entend donc consacrer 30 milliards d'euros à la transition écolo, dont une partie pour la rénovation thermique des bâtiments.
C'est un peu l'étendard de ce plan de relance, une mesure qui concerne directement les Français avec des répercussions à la fois sur l'emploi et sur l'environnement. On estime que près de 7 millions de personnes en France se trouvent en situation de précarité énergétique, c'est-à-dire que leur facture énergétique pèse pour plus de 8% de leurs revenus. Alors concrètement, Élise Dangean, qu'est-ce que ça va changer?
Eh bien, à partir du 1er janvier prochain, tous les propriétaires pourront bénéficier de MaPrimeRénov, un dispositif pour le moment réservé aux foyers les plus modestes. Là, même les ménages les plus aisés pourront bénéficier d'un coup de pouce du gouvernement pour réaliser des travaux d'isolation, de chauffage ou de ventilation. Une aide qui pourra également être versée aux bailleurs et aux syndicats de copropriété, le tout avec des démarches administratives simplifiées. Le gouvernement vise ainsi les rénovations globales, rénover plusieurs appartements en même temps, par exemple, ou toute une maison, du sol au plafond. Une excellente stratégie, selon Pierre-André de Chalandard, PDG de Saint-Gobain.
Ça va être très significatif. En gros, c'est entre 300 et 400 euros par mètre carré pour rénover de façon globale. Mais si vous faites ça, donc ça va coûter cher. Sur 100 mètres carrés, ça fait peut-être 30 000 euros. La prime rénov, elle pourra aller jusqu'à 20 000 euros. Donc ça veut dire qu'il va rester à charge pas grand-chose pour les plus modestes, un tiers, et une réduction de la facture de chauffage. Mettons que c'était à peu près 3 000 euros. Mon logement moyen, ça va être 500 euros.
Alors pour ça, il faudra passer par des entreprises agréées, les fameuses RGE, reconnues garantes compte de l'environnement. Vos droits dépendront évidemment de vos revenus et du type de travaux réalisés. Il existe déjà un simulateur sur le site du gouvernement qui devrait être mise à jour d'ici au 1er janvier prochain.
Merci Élise Dangean. Et on précise qu'en matière environnementale, ce plan de relance cible non seulement donc la rénovation thermique dont on vient de parler, mais aussi les transports, l'énergie et la décarbonisation de l'industrie.
Avec même un plan vélo. On aura l'occasion d'y revenir avec Éric Woerth, mon invité à 18h20, et puis dans le débat du Club des idées, très largement avec nos experts ce soir, 19h15. En tout cas, le Premier ministre l'a martelé à plusieurs reprises lors de sa présentation. La priorité du gouvernement, c'est l'emploi.
Et en particulier, l'emploi des jeunes, qui dit emploi dit entreprise. Bien sûr, c'est le volet compétitivité. 35 milliards seront investis. Le gouvernement souhaite notamment s'attaquer aux impôts trop lourds auxquels font face les entreprises.
Et là, on entend déjà la petite musique dans la tête de certains. Tout pour les entreprises et rien pour nous, les classes moyennes notamment. Emmanuel Dutheil, vous êtes le chef du service éco d'Europe 1. Est-ce que les entreprises sont vraiment les grandes gagnantes de ce plan de relance ?
Oui, on peut le dire, on peut l'assumer. Les entreprises sont les grandes gagnantes de ce plan. Et c'est totalement assumé du côté de l'exécutif. À Bercy, on dit avoir étudié tous les derniers plans de relance et assurer qu'ils ont été des échecs, notamment parce qu'ils se sont tous basés sur la demande. Stimuler la demande, ça veut dire généralement baisser les impôts, augmenter les aides aux ménages. Un ministre de premier plan le reconnaît, alors ça aurait été bien plus facile à vendre, mais ça aurait été, selon lui, inutile. Pour préparer la France de 2030, comme dit Jean Castex, l'exécutif veut donc faire ce que l'on appelle un choc d'offres. Et pour cela, le gouvernement baisse donc, oui, fortement certains impôts des entreprises. Un exemple, les impôts de production, c'est un cinquième des 100 milliards du plan. Il y a aussi des milliards d'aides pour développer l'hydrogène, pour localiser des technologies d'avenir en France. Car pour Matignon, la seule politique qui marche, c'est celle qui crée de l'emploi. Alors oui, les entreprises vont aussi avoir une prime pour embaucher un jeune. Un apprenti ne coûte quasiment plus rien aujourd'hui à l'employeur. Le gouvernement escompte 160 000 créations d'emplois en 2021, 240 000 en 2022, avec un objectif très ambitieux, repasser sous les 10% de chômeurs au début 2022, soit, tiens, comme par hasard, quelques mois avant la présidentielle.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1, vous l'évoquiez à l'instant, Emmanuel, 7 milliards d'euros seront débloqués pour faire de la France un fleuron de l'hydrogène. On aura l'occasion d'y revenir en détail dans votre journal de 19h.
Oui, beaucoup de questions encore autour de ce plan de relance qu'on va décortiquer tout au long de ce 18-20 et notamment à 19h15 avec le club des idées. Alors comment est-il financé notamment ce plan de relance et sera-t-il suffisant pour éviter un effondrement de notre économie ? Réponse tout à l'heure.
Oui, à gauche, en tout cas, on raille un plan du sapeur camembert. La formule est du premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, qui estime que tout cela vient bien tard. La droite craint une bombe à retardement pour les finances publiques. Les écolos trouvent que ce plan n'est pas assez vert. Philippe Martinez de la CGT y voit, lui, un plan de continuité.
Dernier élément, Jean Castex a par ailleurs pris position sur le fameux rapprochement Veolia-Suez.
Oui, qui, selon lui, fait sens, en tout cas d'un point de vue industriel. Il assure qu'en tout cas de rachat, il sera vigilant sur l'emploi. Et puis le Premier ministre a aussi officialisé la nomination de François Bayrou comme haut commissaire au plan, une mission qu'il exercera à titre bénévole. Grand retour tour donc pour le patron du Modem, dont la nomination fait bondir l'opposition. On se souvient qu'il avait quitté le gouvernement après l'affaire des emplois fictifs des assistants du Modem au Parlement européen.
18h06, la suite de votre journal avec Isabelle Billet.
Et deuxième jour d'audience au procès des attentats de janvier 2015. Aujourd'hui, la justice a commencé à procéder à l'interrogatoire d'identité des accusés et à entendre les enquêtes de personnalité.
La Cour d'assises spéciale de Paris a décidé d'autoriser les accusés et les avocats à ôter leur masque exceptionnellement lorsqu'ils s'expriment à la demande de plusieurs parties qui dénonçaient une atteinte au droit de la défense, c'était il y a tout juste un an, dans le sillage du mouvement.
C'est un autre sujet, mais c'est parce que j'ai enchaîné sur la feuille, c'est ma faute. C'était donc il y a tout juste un an, dans le sillage du mouvement MeToo, se tenait le Grenelle des violences conjugales.
Oui, c'est pas tout à fait pareil.
Rien à voir.
Un an plus tard, beaucoup de chemin encore à parcourir, comme l'illustre le calvaire vécu par Claire. Elle a 35 ans, elle vit à Tourcoing, dans le Nord, et après avoir subi les harcèlements de son ex-conjoint pendant plus d'un an, il a fallu qu'elle soit en danger de mort pour qu'enfin la police intervienne. Lionel Gougelot.
Oui, effectivement, ces 18 mois n'ont été qu'une succession de menaces, d'intimidation, parfois en pleine nuit au domicile de la jeune femme, des appels malveillants jusqu'à 60 par jour, des dégradations sur sa voiture, pare-brise défoncé, rétroviseur explosé, des menaces de mort très claires comme l'envoi de la photo d'un revolver, harcèlement qui s'est poursuivi jusque sur le lieu de travail de la commerciale en présence de clients. Alors au total, Claire a déposé effectivement une quinzaine de plaintes, mais sans effet, malgré un mandat d'arrêt lancé au mois de mars dernier, l'homme semblait insaisissable et c'est quand l'ex-conjoint tente il y a 15 jours de mettre le feu à son domicile en versant de l'essence sur sa porte d'entrée, que Claire lance un SOS sur les réseaux sociaux. La police attend-elle que je meure, s'indigne la jeune femme. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Elle diffuse la photo, l'identité de son agresseur, publication largement partagée. D'autres femmes témoignent à leur tour de la violence de cet homme, qui sera finalement interpellé dans la nuit de mardi à mercredi. Il est ce soir d'ailleurs toujours en garde à vue. Aujourd'hui, Claire aspire à retrouver la tranquillité, mais reste traumatisée par ses mois de souffrance et imagine que, sans cet appel à l'aide, la violence de cet homme lui aurait peut-être coûté la vie.
Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1, dans le Nord, en direct.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
18h10, la suite de votre journal avec Isabelle Millet. On s'intéresse maintenant à Didier Raoult, visé par une plainte déposée devant l'Ordre des médecins. Ses prises de position tranchées tout au long de la crise sanitaire n'ont pas été visiblement du goût de certains de ses pairs.
Oui, le professeur marseillais est accusé d'avoir fait la promotion d'un traitement, en l'occurrence l'hydroxychloroquine, dont l'efficacité scientifique n'a pas été prouvée. Nathalie Chevance, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Marseille. Didier Raoult, qui a encore de nombreux soutiens, hein, puisque le président de la région PACA notamment le défend et dit qu'il n'a fait que respecter le serment d'Hippocrate. En tout cas, Nathalie, c'est la contre-attaque hein, ce soir dans l'entourage du professeur.
Oui, d'abord, il fait savoir qu'il n'est pas au courant de cette plainte et que depuis le mois de juillet, le Conseil de l'Ordre ne l'a toujours pas avisé. Ensuite, dans l'entourage du professeur Raoult, on tient à souligner que la Société de pathologie infectieuse, comme beaucoup de sociétés savantes d'ailleurs, est notamment financée par des laboratoires pharmaceutiques. Encore du buzz, dénonce le professeur Parola, chef de service à l'IHU.
Si tout cela est vrai, écoutez, on n'est pas du tout inquiet. Depuis le Moyen-Âge, les universitaires peuvent s'exprimer sur leurs pratiques, sur leurs travaux. Nous ne faisons pas de recommandations, ni Didier, ni moi, ni les membres de nos équipes. Nous avons simplement dit comment nous travaillons, comment nous soignons les gens. Et d'ailleurs, vous savez, la moitié du monde actuellement utilise l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine pour traiter les patients. Donc tout ce buzz médiatique, qu'il soit vrai ou faux, de toute façon, ne change rien dans notre façon de procéder et la confiance que place les patients en nos équipes.
Et actuellement, une cinquantaine de malades sont soignés à l'IHU, mais le traitement du professeur Raoult ne fait pas l'unanimité dans les autres hôpitaux marseillais. Un chef de service me confiait aussi tout à l'heure que cette plainte était tout de même très malvenue dans le contexte actuel de reprise épidémique.
Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille.
Et puis toujours à propos de la Covid-19, les États-Unis se préparaient à l'arrivée imminente d'un vaccin contre le coronavirus.
En tout cas, tous les gouverneurs ont reçu la consigne de se préparer, que des centres de vaccination soient opérationnels d'ici le 1er novembre, alors c'est un courrier qui suscite beaucoup de scepticisme hein, aux États-Unis, car pour l'instant, on le rappelle, aucun vaccin n'est vraiment opérationnel. Hein, et certains parlent d'un coup de com' de Donald Trump, coup de com' qui tombe bien, on serait à 2 mois de la présidentielle.
18h12, la suite de votre journal. Bruno Kobzinski, le porte-voix des salariés d'Ascoval, que l'on a, souvenez-vous, souvent entendu dans les médias, eh bien il est soupçonné de détournement de fonds.
L'ancien trésorier de l'aciérie de Saint-Saulve, dans le Nord, est visé par une enquête pour abus de confiance. Cet ancien délégué CFDT aurait détourné à son profit environ 500 000 euros pendant 2 ans et demi. La liste des chevaux mutilés s'allonge. Cette fois, c'est une jument qui a été découverte aujourd'hui, très grièvement blessée, à Val-Revermont dans l'Ain.
Les sports et le club de foot de Troyes passent sous pavillon Emirati, vendu à la City Football Group, société qui contrôle déjà plusieurs écuries, dont Manchester City en Angleterre.
Oui, toujours en foot, ce soir, Bastia, le club corse qui évolue en national, accueille Boulogne-sur-Mer. Et dans les tribunes, figurez-vous qu'il y aura 6500 spectateurs, alors que la jauge imposée par les autorités est de
5000
maximum. Mais Bastia a obtenu une dérogation préfectorale avec des conditions bien sûr très strictes. En tout cas, c'est une première.
Et on n'oublie pas évidemment, Isabelle, la 6e étape du Tour de France.
Et on retrouve Marguerite Lefèvre avec la victoire. Marguerite, la victoire facile même, hein, du Kazakh Alexei Loutchenko.
Oui, impressionnant numéro du coureur kazakh. On le sentait assez facile depuis ce midi au milieu de l'échappée du jour. Et bien dans le final, dans le redoutable col de la Luzette, il est parti tout seul sans se retourner et il s'offre donc à 27 ans sa toute première victoire sur un Tour de France. Derrière lui, on attendait du spectacle sur cette étape de montagne. En théorie, on se dit que toutes les occasions sont bonnes pour attaquer et gagner du temps au classement général. Et bien finalement, les favoris sont restés très très sages aujourd'hui. Pas d'attaque dans le groupe des leaders à part cette tentative de Julien Alaphilippe. Dans les tout derniers mètres de l'étape, le Français a réussi à récupérer une petite seconde, c'est tout, sur ses principaux adversaires et notamment le maillot jaune, Adam Yates, toujours leader. Adam Yates qui portera demain pour la 2e journée son maillot de leader sur une étape beaucoup moins compliquée, étape de transition qui mènera les coureurs de Millau dans l'Aveyron jusqu'à Lavaur dans le Tarn.
Merci Marguerite Lefèvre sur la route du Tour pour Europe 1.
C'était le Point Tour de France avec Total Direct Énergie. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Merci Isabelle Millet, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30 pour le rappel des titres et 19h pour le Grand Journal. La météo avec vous Anissa, le ciel restera couvert demain dans le nord.
Oui effectivement, la journée commence avec en effet Julien encore sur la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France jusqu'aux Ardennes. Un ciel très couvert avec quelques petites gouttes à prévoir, notamment sur la pointe bretonne. Dans l'après-midi, toujours sur le nord-ouest, de nombreux nuages encore sur les côtes de la Manche, cette fois-ci sur la mer du Nord. Et sur la Manche, le soleil va effectivement faire quelques timides apparitions. Mais alors, ça sera très
timide.
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 J'insiste
d'accord.
Bien sur timide.
Vous avez raison.
Partout ailleurs, demain et surtout au sud de la Seine, là, le soleil domine. C'est une vraie journée d'été demain avec des températures en hausse. 9 à 15 degrés le matin, jusqu'à 20 degrés en bord de Méditerranée. Au meilleur de la journée, c'est un pic de chaleur. Je vous en parle depuis lundi. Écoutez bien, alors sauf dans le nord-ouest évidemment. 21 à Brest, 23 à Caen et Lille, 25 à Rennes. Nous aurons 29 degrés pour Paris, 30 à Nîmes et Chambéry, 31 à Biarritz, 32 à Toulouse et Clermont-Ferrand, 33 à Bordeaux et jusqu'à 35 degrés à Mont-de-Marsan.
C'est toujours la même histoire, plus on descend, plus il fait chaud.
Exactement.
Merci Anissa.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec notre invité ce soir à 18h18, il est ancien ministre du Budget, actuel président de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale. Bonsoir Éric Woerth.
Bonsoir.
Député LR de l'Oise. Alors 100 milliards d'euros, ça y est, mis sur la table pour relancer l'économie française, c'est inédit, on en connaît le détail. Jean Castex a présenté les mesures tout à l'heure. C'est un plan de l'offre et non pas de la demande, dont les deux tiers iront directement aux entreprises et à la compétitivité. Est-ce que vous applaudissez ?
En tout cas, il faut un plan de relance. Et tous les pays, évidemment, ont un plan de relance parce qu'il fallait bien, à un moment donné, articuler avec les programmes d'urgence qui ont été votés et mis en œuvre. Donc, il faut aussi amender, changer, bouger. Et puis, il faut aussi transformer. Il faut que le plan de relance, il transforme. Donc, c'est le cas pour la transformation écologique, notamment, ou numérique. Moi, j'approuve l'idée que ce plan soit plutôt axé sur la compétitivité des entreprises.
Pro-business.
Parce que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on soit idéologue ou pas, moi je suis quelqu'un qui a du bon sens et j'essaie de le cultiver, c'est de considérer que ce sera très très difficile de distribuer de la richesse et donc d'être plus juste si on ne la produit pas. Donc il faut évidemment produire de la richesse et retrouver des niveaux de production. Donc il faut faciliter la vie de l'appareil de production français. C'est l'objectif de ce plan, donc oui. Sur son principe, les choses me vont bien. Nous, les Républicains et moi-même, on avait présenté un plan de relance dès la fin du mois d'avril ou début mai, assez largement, où on était essentiellement consacré sur l'appareil de production et sur la compétitivité. Donc oui, à la façon dont il est organisé.
Oui. Sur l'idée de contrepartie, vous savez, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent aujourd'hui, notamment chez les partenaires sociaux et puis dans la classe politique également, à gauche notamment, qui regrettent qu'il n'y ait pas de contrepartie pour ces aides massives aux entreprises. Je le rappelle, hein, compétitivité des entreprises, c'est 20 milliards d'euros de baisse d'impôts de production, la poursuite de la baisse de l'impôt sur les sociétés, la baisse aussi de la fiscalité foncière, on en a peu parlé mais c'est important, le maintien du chômage partiel, les aides pour les emplois jeunes et tout ça sans aucune espèce de conditionnalité.
Est-ce que vous ne demandez aucune contrepartie aux ménages non plus ? Donc, il n'y a aucune raison de demander des contreparties très spécifiques aux entreprises françaises.
Oui, mais le gouvernement, il faut que les entreprises jouent le jeu de l'emploi. Ça n'a pas toujours été le cas, Éric Woerth.
Oui, évidemment, il faut qu'elles jouent le jeu de l'emploi, de la compétitivité, de la transformation. Il faut qu'elles soient responsables sur le plan écologique et sur le plan social.
Mais ma question, est-ce qu'on peut leur faire confiance les yeux fermés pour
non,
qu'elles
jamais, on fait jamais confiance les yeux fermés.
Des baisses d'impôts et qu'elles embauchent.
Mais il ne peut pas y avoir des conditionnalités impossibles sur chaque aide. Parce que quand vous avez un malade en réanimation, vous ne lui dites pas « je vais te réanimer, mais à condition que ». Donc c'est un peu le cas pour les entreprises françaises, qui pour un certain nombre sont en train de fermer. On est devant des séries de plans sociaux qu'il faut évidemment tout faire pour tenter d'éviter.
Sauf qu'il faut relancer la machine. Sauf qu'il y a un passif quand même, Éric Woerth. Il y a le CICE, 40 milliards d'euros mis sur la table pour les entreprises en quelques années, par François Hollande d'ailleurs, pour aider les entreprises à repartir
je pense que ça a été utile.
Et on estime, selon les différentes enquêtes qui ont été menées, que ça a permis au maximum de conserver 100 000 emplois. C'est quand même très
moi
peu.
Moi, je ne crois pas à ces enquêtes. Je pense que le coût du travail est un point important, que la baisse du coût du travail est aussi très très important. Ça ne veut pas dire la baisse des rémunérations, ça veut dire à un moment donné de baisser le coût du travail et d'augmenter les qualifications. Donc on voit bien qu'on est sur ce type de sujet. De toute façon, la valeur de l'économie française, elle n'est pas dans l'absolu, elle est toujours évidemment comparaison avec d'autres. Quand on regarde nos déficits commerciaux et quand on regarde malheureusement nos finances publiques, on voit que les Français ne sont pas très heureux et qu'on a encore 7% de chômage massif. Donc on doit transformer. On n'a aucune chance de lutter contre le chômage massif si on ne lutte pas contre cette période en sortant d'anesthésie. Au fond, on va rentrer en plein dans le réel avec des entreprises qui vont être confrontées à la réalité des choses et qui, malheureusement pour un certain nombre, seront amenées à déposer le bilan et à fermer la porte si on ne fait pas grand-chose. Donc il faut les accompagner sur le plan de la relance. Mais la relance, elle ne suffit pas. Et la manière dont le gouvernement le présente, moi, me pose parfois question, même si je dis « Ok, je suis favorable ». L'exemple précis, c'est le financement. Le financement du plan de relance, quand vous dites 100 milliards, bon, c'est pas tout à fait 100 milliards.
C'est 50 milliards la première année, 50 milliards la deuxième année déjà. On l'a peu dit, mais c'est important de le rappeler.
Et exactement, ça a été vrai pour les 460 que le président de la République avait annoncé. Ça n'a jamais été 460. C'est des intentions et notamment des garanties.
Alors sur le financement,
dans le décaissement, c'est beaucoup moins. Mais le financement,
40 milliards est financé par l'Union européenne parce que c'est des subventions.
En réalité, il y a 80 milliards de décaissés. On valse avec les milliards, c'est des sommes colossales, mais c'est évidemment pas les chiffres qu'annonce le gouvernement. Donc il y a à peu près 80 ou 90 milliards, ce qui sera déjà beaucoup. De décaisser. Donc il y a 40 milliards à peu près financés par l'Europe, dont on n'est pas sûr.
Oui.
L'Europe, c'est des intentions. Je suis aussi favorable à la manière dont la négociation a été faite avec l'Europe et au fond que ce soit plutôt une chance à un moment donné pour l'Europe parce qu'elle s'intègre mieux, parce qu'elle est capable de mutualiser à un moment donné un emprunt. Je trouve ça bien. Mais la décision n'est pas définitivement prise et de loin pas. Et la participation au remboursement de cet emprunt n'est pas non plus prise. Est-ce que c'est une taxe carbone aux frontières, c'est-à-dire des ressources propres européennes. Il y a beaucoup de gouvernements qui sont absolument contre ça. Ou est-ce que c'est tout simplement remboursé parce que la participation des pays sera plus importante. Donc est-ce que la France sera contributeur net ou pas à ce plan de relance.
Il y avait une action à mener à court terme pour sauver l'économie française notamment. Qui explique le risque de l'endettement.
Ouais, mais les vraies questions, elles sont vertigineuses. Ouais. C'est-à-dire comment, à un moment donné, on finance ces montagnes de dettes qu'on est en train d'accumuler sur le plan public comme sur le plan privé. Et c'est à ces questions, le gouvernement ne répond pas. Il dit le plan de relance finance le plan de relance. C'est-à-dire l'accélération de la croissance financera tout ça. Ce n'est pas vrai.
Oui. Éric Woerth, si vous étiez ministre du budget aujourd'hui ou ministre de l'économie, quelle est la mesure qui n'apparaît pas dans ce plan de relance que vous auriez prise?
Moi, j'aurais consolidé l'endettement des entreprises. Ça veut dire que j'aurais non pas mis 3 milliards d'euros, mais sans doute beaucoup plus, pour dire aux entreprises, vous sortez de cette crise très endettée, les prêts garantis par l'État sont de l'endettement. Et je maintiens une garantie de l'État bien plus importante sur la transformation de ces dettes en quasi-fonds propres, comme on dit, c'est-à-dire avec des dettes qui pèsent moins. Et ça, c'est très important. Si on veut retrouver la capacité d'investir, c'est très important. Et deuxième mesure, c'est que les Français ont épargné 100 milliards d'euros en plus d'un taux d'épargne déjà très important. Il faut absolument mobiliser ces 100 milliards dans la consommation.
Oui.
Rien n'est fait dans ce domaine-là. Et également dans l'investissement
de
des entreprises.
Pour que les Français aient envie de consommer.
Il faut de la confiance. Et moi, j'ai un deuxième point là qui me préoccupe sur le plan de relance. C'est que je ne voudrais pas que dans les 18 mois qui restent pour le gouvernement d'Emmanuel Macron, avant les élections, et puis il y a d'autres élections avant les élections régionales et départementales, je ne voudrais pas que le plan de relance soit au fond, qu'on se contente du plan de relance pour considérer que c'est le solde de tout compte, de toute réforme du pays. La vraie relance du pays, c'est par la réforme du pays.
Bien.
C'est par des réformes structurelles qui n'ont pas été menées ou qui ont été arrêtées au milieu du guet. Donc je ne voudrais pas qu'on se contente de ça, que ce soit
message.
Un simple prétexte.
Éric Woerth, deux questions, réponses très claires de votre part. Vous êtes favorable à ce que les Français travaillent plus, c'est un débat qui monte au sein du MEDEF
cultiver mes dégâts. Oui, je suis favorable. Je voudrais juste dire une chose. Je ne veux pas reprendre les vieilles polémiques sur le temps de travail. Je pense que quand on regarde le temps de travail disponible par Français au fond, et donc qui nous permet de nous financer, notre modèle social, il est très inférieur à tous les pays, à peu près à tous les pays. Donc il faut travailler tout au long de sa vie, mais ça veut dire aussi que c'est la réduction du taux de chômage. Le vrai problème, c'est qu'avec 7% de chômeurs, évidemment, vous accumulez pas les heures de travail, ou avec des départs à la retraite, parfois un peu trop anticipés, ou des arrivées sur le marché du travail trop tardive. Donc, ce n'est pas uniquement un problème de temps de travail hebdomadaire, c'est le temps de travail tout au long de la vie et c'est évidemment le côté chronique, malheureusement, du chômage dans l'économie française qui doit être combattu. Ce n'était pas le cas. Vous savez, on a abordé cette crise en état de faiblesse. État de faiblesse.
Je voulais finir juste par une question, parce que j'ai lu, Éric Woerth, que vous seriez intéressé éventuellement par une candidature en 2022.
Non, mais je pense que tous les...
Je suis
intéressé par les élections présidentielles parce que je voudrais... Je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Je dis simplement qu'aucun... Je ne connais pas d'hommes et de femmes politiques qui ferment la porte. Nous ne connaissons pas les conditions de cette élection. Donc, nous verrons bien. Mais je pense qu'il faut, à un moment donné...
En tout cas, si vous faites une annonce,
droite,
vous revenez dans le studio. Ouais, hein.
Bien sûr. Mais il faut évidemment, que la droite a beaucoup de candidats potentiels. Il faut qu'on dise les choses, il faut qu'on ait du bon sens, il faut qu'on soit sérieux, et puis il faut qu'on ait un processus de désignation de ce candidat ou de cette candidate. On est en cours,
Merci.
La droite se reconstruit.
Merci Éric Woerth.
Merci.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et avant le débat des grandes voix dans quelques secondes, d'abord le rappel des titres avec vous Isabelle Millet.
Et 100 milliards d'euros sur 2 ans mobilisés dans le grand plan de relance, 35 milliards consacrés à la compétitivité des entreprises, priorité à l'emploi, surtout à l'emploi des jeunes. Côté transition écologique, le gouvernement débloque 11 milliards d'euros pour les transports avec près de 5 milliards affectés à la SNCF pour le redéveloppement du fret ferroviaire, pour les petites lignes ou pour les trains de nuit. 7 milliards également pour la rénovation thermique des bâtiments publics et privés. Les régions de France vont répondre présents pour participer à ce plan de relance, déclare ce soir leur président Renaud Muselier, qui salue au passage l'évolution des relations depuis l'arrivée de Jean Castex à Matignon. Le gouvernement soutiendra la compagnie maritime Brittany Ferries en grande difficulté financière, promesse aujourd'hui du ministre de l'économie. 4 jeunes touristes français arrêtés à Séville, dans le sud de l'Espagne. On les soupçonne du viol de 2 mineurs espagnols. Et puis le Kazakh Alexei Loutchenko remporte au terme d'une longue échappée la 6e étape du Tour de France. Le Britannique Adam Yates conserve son maillot jaune.
Merci Isabelle, à tout à l'heure 19h.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Avec le retour de la chaleur demain, très bonne nouvelle Anissa.
Oui, effectivement, demain dans le sud-ouest, nous allons atteindre les 35 degrés. 35 par exemple à Mont-de-Marsan, 33 à Bordeaux, 32 pour Clermont-Ferrand et 29 degrés à Paris. Il va faire beau sur presque toute la France, mais c'est encore sur le nord-ouest demain, en Bretagne, Normandie et sur les Hauts-de-France, que le temps sera le plus agité avec des nuages épais et des averses. Mais je ne vais pas partir sur cette mauvaise note, puisque je vais vous annoncer que ce week-end, le beau temps revient sur le nord-ouest. Un peu de patience. Courage.
Merci Anissa.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h32, on est en direct dans Europe Soir et on ouvre maintenant le débat des grandes voix, comme chaque soir, avec à mes côtés en studio Catherine Ney, Michel Cotta et Charles Villeneuve. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
100 milliards d'euros pour relancer la France. Cette fois, ça y est, avec un peu de retard, on connaît enfin le détail des mesures. 30 milliards pour la transition écolo, 36 milliards pour la cohésion sociale, 34 milliards pour la compétitivité. C'est clairement un plan qui fait la part belle aux entreprises, un plan pro-business. D'ailleurs, Jean Castex l'assume.
Je le dis clairement ici, le plan opérera d'abord une relance par l'offre. La priorité va donc au soutien assumé à l'offre et à l'investissement productif.
Voilà, déclaration du Premier ministre, c'était il y a quelques jours à l'université d'été du MEDEF. Jean Castex qui a présenté tout à l'heure en conférence de presse son plan. On connaît les mesures, on connaissait les grands volumes et puis on connaissait beaucoup de mesures, mais il est rentré dans les détails avec la question et les questions des journalistes. Charles Villeneuve, un mot peut-être d'abord sur l'orientation de ce plan, l'offre plutôt que la demande. Est-ce qu'on en fait trop pour les entreprises et pas assez pour les ménages comme le disent certains?
Moi je le crois. Je le crois d'autant plus qu'on est né sur tous les comptes d'épargne. Sur le livret A, d'après donc, les banquiers que j'ai consultés tout à l'heure, on est à peu près à 20 milliards. Et sur tous les comptes d'épargne, on est à 100 milliards. Mmh. Et tout l'été, et depuis le déconfinement, les Français n'ont pas consommé. Les Français ont peur, d'abord, du Covid, évidemment, mais ont peur aussi de perdre leur emploi. Alors évidemment, ce plan a tenu compte, justement, de cette crainte. Mais il n'empêche, si vous voulez, que la consommation demeure entravée par une très forte épargne. Et cette forte épargne, eh bien, il n'y a aucune incitation, si vous voulez, pour qu'elle sorte des comptes. Et non seulement pas d'incitation, si vous voulez, à l'égard des ménages, par exemple, je ne sais pas, on aurait pu encourager par des primes, et ça avait très bien marché pour l'achat de voitures.
Oui,
par exemple,
prime à la conversion.
Mais ça marche, non ?
Catherine.
Mais non, ça marche plus. C'est-à-dire que
on
maintenant,
on n'a jamais autant
de
vendu
façon...
de voitures en
oui.
juin.
Oui, mais
plus que l'année dernière.
Eh bien, c'est bien pour ça qu'il fallait continuer à encourager et justement et cibler beaucoup plus les ménages qu'on ne l'a fait. Et moi, je trouve aussi qu'à force de diminuer notamment la fiscalité des collectivités locales, qui tiennent un rôle très important sur ce plan-là, eh bien, on a aucune incitation oui. dans les cibles qu'on a déterminées.
C'est vrai que Jean Castex oui, est en train de faire ce que la droite n'a jamais fait. On n'a jamais autant baissé oui. les impôts pour les entreprises, on n'a jamais autant relancé la compétitivité française, faire baisser le coût oui, du non. travail
on
notamment.
On n'a jamais autant...
Attendez, Michel oui. Cotta, question, est-ce que ce plan, il est selon vous bien calibré ? Michel
Alors,
Cotta.
Pour répondre en tout cas à Charles, je vois très bien que l'incitation aurait pu, etc. Mais il faut bien dire que beaucoup de choses ont été faites avant. Hein. Le chômage partiel, c'est quand même un coup de pouce formidable
non, mais
donné,
très bien. Mais
donné
moi
aux familles.
Te,
alors,
moi,
peut-être non, qu'on non, peut toujours aller
bien.
Plus loin.
Moi, je te réponds, mais c'est il y a 100 milliards sur les comptes d'épargne. Donc, les Français...
Oui, il faut qu'il
il faut de la confiance voilà. pour consommer.
C'est pour ça, voilà. c'est pour ça qu'au fond...
Et si tu n'as pas de confiance, parce voilà. que ce alors, plan, il est fait aussi pour le président de la République, dans la perspective de 2022.
Alors, sur
la confiance en l'État, oui. c'est clé dans
Alors,
l'affaire.
Michel Cotta, sur oui. le calibrage, est-il oui. bien calibré et le gouvernement a-t-il oui. raison de faire le pari des entreprises ?
Écoutez, dans l'état actuel des choses, moi, je vous dis que, oui, je pense qu'il a raison, mais que c'est quand même c'est très intéressant de voir d'abord qu'il aide les entreprises, et puis dans quel sens il les aide, c'est-à-dire l'hydrogène, le bâtiment, etc. C'est pas oui. indifférent, et puis les investissements à long terme.
Alors, baisse des impôts massifs, sans contrepartie, c'est ce qui fait grincer
alors, voilà.
les dents quand
alors,
même.
Le problème, c'est un, est-ce qu'on peut avoir confiance dans les patrons pour qu'ils répercutent leur baisse et qu'ils ne profitent pas de ça pour alimenter leurs actionnaires, c'est sûr, c'est une...
Oui.
Bon, mais autant qu'on
mais
puisse...
Oui,
oui, c'est une vraie question, donc ça repose sur un pari.
C'est quand même au demeurant le principe du capitalisme. Hein. L'entreprise, elle est faite
oui,
pour rémunérer
écoutez,
des actionnaires.
On est dans un cas très particulier
aussi.
où les patrons ont plutôt besoin d'avoir de l'argent et des perspectives que d'autres choses, parce qu'il n'y en a pas. Et puis le deuxième pari, c'est évident, c'est le pari du Covid. C'est-à-dire... tout ça est quand même, et c'est ça qui fait, à mon avis, une grande part pas d'insatisfaction, mais d'insécurité.
Oui.
C'est, s'il y a pas de rebond du Covid, et si, ou s'il est maintenu, c'est un plan qui vient. Et s'il y a un rebond, c'est vrai que ça va poser d'autres
Catherine
questions.
Catherine, même question, est-ce qu'il est bien calibré ce plan de relance ?
Il est calibré en tous les cas, comme jamais, vous l'avez dit, on l'a calibré. Mais vous savez, en ce moment, il y a deux pays qui sont leaders en Europe. C'est l'Allemagne et puis la France.
Oui.
La différence entre l'Allemagne et la France, c'est que l'Allemagne, elle a un réseau d'entreprises, des grosses, des moyennes, des petites, qui font que le chômage est à moins de 5%. Et que le pari d'Emmanuel Macron et de Jean Castex, c'est de dire, si on veut rassurer les gens, si on veut qu'ils dépensent, parce qu'ils ont de l'argent, il y a 100 milliards
oui,
de côté.
Oui.
C'est pas comme s'il y avait rien.
Oui.
Il y a 100 milliards. Eh bien, si on veut qu'ils dépensent, eh bien, il faut créer de l'emploi. Pourquoi les gens, ils économisent aujourd'hui ? Parce qu'ils ont peur d'emploi. Ils ont dit, notre enfant ne va pas trouver de travail et tout ça. Donc, créer de nouvelles industries, comme le dit Bruno Le Maire, qui a été dans ce plan qu'il prépare depuis des mois.
Oui.
Il l'a travaillé, il l'a dit, avec des économistes, des entrepreneurs, des partenaires sociaux. Et ce qu'il voudrait, c'est ouvrir de nouveaux marchés d'avenir. Il est temps de passer à autre chose, inciter les entreprises à investir sur de nouveaux terrain porteur où la France peut être bonne et créer des emplois.
Et créer le contexte
de la confiance
pour que les ménages consomment. On continue d'en parler dans quelques secondes, 18h39. Et puis on parlera également de cette confirmation. Il n'y aura pas de hausse d'impôts. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Gardez votre réponse, Catherine.
Bien sûr.
On en parle dans quelques secondes. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h40, on est toujours en direct dans Europe Soir avec à mes côtés Catherine Ney, Michel Cotta et Charles Villeneuve qui continuent le débat oui. pendant la publicité sur ce plan de relance. Est-il bien calibré ? Fait-il trop peut-être la part belle aux entreprises ? On en parlait juste avant la pause et on va continuer d'en parler. Alors c'est vrai qu'on évoquait les chiffres. Plus de 35 milliards d'euros qui sont destinés directement aux entreprises, des baisses d'impôts, des investissements pour renforcer aussi les fonds propres des entreprises. Et puis, quand on regarde le soutien aux personnes précaires, vous l'évoquiez, Charles Villeneuve, 100 euros pour l'allocation de rentrée, ticket restaurant universitaire à 1 euro, soutien aux associations, ça représente 800 millions d'euros sur 100 milliards. Est-ce que c'est assez ?
Mais de toute façon, ça n'est jamais assez. Mais la France, c'est la dépense publique. C'est le pays qui dépense le plus pour sa dépense publique. Vous ne pouvez pas dire que la France n'a pas une politique sociale. Il n'y en a jamais assez. Mais est-ce qu'il faut être un paradis social dans un cimetière économique? Aujourd'hui, je pense que si la France veut se relever, il faut qu'elle ait des entreprises, qu'elle crée des emplois, qu'elle crée de la richesse, et c'est comme ça qu'elle pourra mieux distribuer. Aujourd'hui, elle distribue en s'endettant. Bon, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, elle s'endette, mais c'est un endettement qui peut porter ses fruits et qui n'est pas un puits sans fond. Je pense que c'est la première fois qu'il y a une tentative de faire ça en bloc. Je ne sais pas si ça va réussir, parce que d'abord, ça dépend de la rapidité des résultats. Or, d'abord, il faut que ce budget, ce plan de relance, il soit voté. Il sera voté cet automne, il commencera à être appliqué en janvier. Donc, il ne va rien se passer pendant trois mois.
Et puis, quand on dit 100 milliards, en fait, c'est 50 milliards la première année, 50 milliards la seconde année.
Donc,
40 milliards sont remboursés par la Banque centrale européenne.
Oui, absolument. Charles Villeneuve.
Oui. Non, mais ce plan de relance, si vous voulez, doit avoir des effets sur la vie quotidienne des Français. Bon, c'est ça, le rétablissement de la confiance à l'égard de l'État et du président de la République. Bon, sinon, il ne se verra pas.
Et donc là, ils font le pari des entreprises.
Voilà, d'autant que parce qu'il faut, c'est vrai, relancer l'industrie française qui est totalement anesthésiée depuis le début de la crise sanitaire.
Oui.
C'est vrai. Et d'autant plus que cette industrie française ne vend pas assez. C'est pour ça qu'elle a besoin de clients. Et c'est la raison pour laquelle ces mêmes clients sont tout autant anesthésiés. Quand on voit que ce mois-ci, 8 milliards de déficit du commerce extérieur, 7 milliards le mois dernier, 5 milliards au mois de juin.
Mais c'est ça, alors, depuis des années, le déficit du commerce extérieur français.
Mais si je peux terminer.
Un million d'emplois détruits d'ici la fin de l'année aussi.
Et donc, si vous voulez, pour que ça se voit, il faut que la fonction publique, la haute fonction, fonctionne. Et brise les obstacles qui, jusqu'à présent, qu'elle a toujours semé sur le parcours, si vous voulez, de la distribution des budgets. Et ça, pour l'instant, on n'est pas sûr de ça.
Alors, si on revient au précaire, c'est vrai que 800 millions, comme dit Catherine, ça n'est jamais assez. Mais encore une fois, c'est vrai que la prime des jeunes, la prime d'emploi des jeunes est 4 000 euros. C'est vrai qu'on peut penser que le pari sur l'activité et le pari sur l'emploi, qui donc est censé ramener 160 000 nouveaux emplois, mais en perdre 800 000.
Près d'un million d'ici la fin de l'année, selon les prévisions.
C'est de la faute de personne, c'est vraiment de la faute de ce qui vient de se passer. Donc, c'est vrai que peut-être qu'en cours de route, sur le plan pauvreté, il y aura des aménagements. Mais pour le moment, en tout cas, il y a quand même beaucoup de prestations sociales, beaucoup d'argent qui ont été dépensés sur le chômage.
Les amortisseurs sociaux ont joué le coup. Les pays européens,
c'est la France qui distribue plus.
Donc c'est peut-être pour ça que les 800 millions qui ne sont pas... effectivement, on peut dire, pourquoi 800 millions seulement. Mais si on compte avec tout l'amortisseur social, c'est vrai que c'est un peu différent.
Quand Castex dit, le Premier ministre Jean Castex dit, on ne va pas augmenter les impôts, il l'avait déjà dit, il le répète. Premièrement, Catherine, est-ce que c'est un bon choix? Et complément de ma question, est-ce qu'en période de crise, la solidarité ne doit pas jouer quand même un peu? On pense évidemment à une contribution sur les hauts revenus.
Ah tiens, oui, il y avait longtemps que ce n'était pas sorti, ça. Oui, mais ça, oui, on pourrait toujours... vous le dites, mais je pense que le gouvernement ne le fera pas.
Donc c'est le bon choix?
Je pense pour l'instant que ce plan... est cohérent et que quand il dit qu'il n'y aura pas de nouveaux impôts, c'est vrai pour tout le monde parce qu'il faut que les gens dépensent. Voilà.
La seule chose qu'on peut dire, c'est que le gouvernement l'a dit deux fois. D'abord, le premier ministre Édouard Philippe l'avait dit une première fois, puis Castex le répète. C'est vrai que maintenant, ça va être quand même très très difficile d'augmenter les impôts. Alors peut-être effectivement une contribution exceptionnelle
après,
en cours de route.
Ça sera la campagne présidentielle, donc ça va être encore plus compliqué.
Voilà. ce que je voulais dire aussi, c'est que tout ça débouche sur 2022. C'est pas un hasard, évidemment. C'est pas un hasard. C'est encore une fois un pari que tout aille bien pour ce moment-là.
Juste après la coupure.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et on parle du plan de relance dévoilé aujourd'hui par Jean Castex et ses ministres avec le débat des grandes voix. Charles Villeneuve, Michel Cotta et Catherine Ney avec moi en studio. Et une promesse qu'a fait Jean Castex aujourd'hui, que la France retrouve son meilleur niveau et son niveau de croissance d'avant-crise
en 2022. Comme par hasard, j'allais dire, 2022, c'est l'année présidentielle. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un enjeu véritablement politique sur la réussite de ce plan de relance pour l'élection éventuelle d'Emmanuel Macron en 2022,
Michel Cotta ? Évidemment, est évident. Vous avez dit tout à l'heure que ça menaçait le gouvernement, mais il n'y a pas que le gouvernement que ça menace, il y a surtout le président. Et c'est bien pour ça que le pari aussi est un pari du temps. Il y a plus que 2 ans. Hein. On sait que les crédits européens arriveront l'année prochaine. Donc, est-ce que tout ça peut marcher avant, je dirais même pas 22, ça doit marcher à la fin 21 pour que la campagne puisse s'annoncer.
C'est un plan de relance de mandat, voilà. En fait.
Donc, on est quand même sur un plan de rapidité. Et là, je rejoins tout à fait ce que dit Charles Villeneuve. On a besoin d'une intendance qui tienne le coup. C'est-à-dire de fonctionnaires à Bercy et ailleurs qui fassent leur boulot très vite. Et ça, on sait que le temps n'est pas forcément celui des techniciens de Bercy. Techniciens, pas technocrates.
Catherine, quelques mots et puis après on passe à cette
vidéo.
Oui,
parce que jusqu'ici,
le
président aura laissé de pas très bons souvenirs, parce que les gilets jaunes qui ont quand même empoisonné les gens pendant plusieurs mois, après la grève des transports et puis les manifestations sur la réforme des retraites qui est abandonnée pour l'instant. Hein. Bon. Et puis là, le Covid, non, mais il a eu un mandat difficile. Oui. Donc, il faut bien qu'il se termine de manière plus optimiste et où les Français voient un résultat. Donc, il a absolument besoin d'un résultat.
Quand vous dites empoisonné, ça dépend de quel point de vue on se place. Oui. Parce qu'évidemment, pour les gens qui manifestent, c'était une colère saine.
Oui. C'était une colère saine, mais ceux...
Et qui restait quand même assez populaire dans l'opinion publique.
Qui restait populaire, mais je pense à tous ces restaurants et ces commerçants qui ont fermé, pour qui c'était des manifestations
qui leur ont coûté cher.
Et ils en sont même... ils ont fermé leur boutique.
Alors, pour terminer, je voudrais qu'on évoque cette séquence qui fait beaucoup réagir. C'était mardi, lors de la visite du président Emmanuel Macron au Liban. Il s'en est pris, sans ménagement, vous allez l'entendre, à Georges Malbruno, c'est un grand reporter du Figaro, pour avoir rapporté des propos que le président a retenus sur de possibles sanctions contre des dirigeants libanais. Voici cette séquence que vous allez écouter, filmée par nos confrères de LCI.
Ce que vous avez fait là, compte tenu de la sensibilité du sujet, compte tenu de ce que vous savez de l'histoire de ce pays, est irresponsable. Irresponsable pour la France, irresponsable pour les intéressés ici, et grave d'un point de vue déontologique. Vous m'avez entendu défendre les journalistes, je le fais toujours, mais je vous parle avec franchise. Ce que vous avez fait est grave, non professionnel et mesquin.
Charles Villeneuve, il est dans son rôle, le président de la République, parce qu'on ne voit pas les images, nous, évidemment, mais il y avait beaucoup, beaucoup de monde autour de lui quand il tend ce journaliste du Figaro, et il est dans une colère. Moi, j'ai rarement entendu comme ça.
Oui, enfin, la partie que joue la France, c'est vrai, en ce moment, au Liban, et le président de la République en première ligne, puisque c'est lui qui est à l'initiative, est difficile. Elle est très sensible. Et tout ça, c'est une conversation avec un député du Hezbollah. Le Hezbollah, c'est quasiment l'émanation totale de l'Iran, on l'a dit ici, je le répète. Bon,
mais un journaliste n'a pas, c'est pas à vous que je vais apprendre ça Charles, n'a pas à se censurer parce que ces informations seraient sensibles.
Ben, oui, tout à fait, c'est ce que j'allais dire et ajouter.
Ah,
si vous
très
voulez.
Bien.
La liberté de la presse est un dogme dans tous les pays occidentaux et on voit qu'elle est mise à mal dans tous les pays de l'Est à l'heure actuelle, notamment. Et donc je pense que son éclat est malvenu parce que, bien évidemment, il a tort de le dire aussi publiquement et avec autant de véhémence. Vous savez, pour grand que soit le roi, ils sont ce que nous sommes. Ils peuvent se tromper, hein, comme les autres hommes. Oui. Et il s'est trompé.
À ceci près qu'il ne discute pas vraiment avec lui. Hein. Il le tense et puis il tourne les talons et il s'en va. Pour ceux qui ne connaissent pas Georges Malbruno, c'est un journaliste reconnu, ancien otage en Irak, grand spécialiste du Moyen-Orient et qui d'ailleurs confirme ce qu'il a écrit. Tout est vrai, dit-il à l'issue de cet échange avec Emmanuel Macron. Michel Cotta.
Et surtout, j'ajouterais
Charles.
Un formidable connaisseur de la situation politique libanaise. Je le connais très bien.
Oui.
Je connais assez bien aussi la situation politique libanaise et tout ce qu'il a dit est vraisemblablement vrai tel que je le connais.
Votre réaction, Michel Cotta.
Je suis sûr que ce qu'a dit Georges Malbruno est vrai parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui a des sources. Maintenant, je comprends que ça mette sur le moment le président en extrême difficulté. Parce que ça le met en extrême difficulté vis-à-vis du Hezbollah avec lequel il tente en Irak de trouver des passerelles pour l'Iran. Donc c'est très compliqué. Ceci étant, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire comme ça. On a retrouvé le président qui était beaucoup plus pugnace et combatif tel qu'il a été dans les premières années. Il ne faut sans doute pas le faire. Mais moi, je dois dire que je préfère ça à l'intervention que j'ai connue de beaucoup de présidents de la République.
Par exemple ?
Oui, sur les patrons de l'information, en leur disant « videz-moi ce journaliste ah. ». Voilà, je préfère
la réponse directe. Oui, quand tu étais présidente de la Haute Autorité.
Mais moi, je trouve, je trouve que sa colère, surtout, donne une publicité formidable au papier de Georges Malbruno, oui, que la plupart des confrères et moi-même, je dois dire, n'avaient pas lu, alors que j'adore Georges Malbruno, mais en ce moment, je ne lis pas tout. Et donc, voilà.
Mais est-ce qu'il a eu tort, le président de la République?
Oui. Ben, il a eu tort. On ne s'emporte pas comme ça. Oui. Surtout, c'était, d'habitude, il était beaucoup plus calme. Mais s'il s'est emporté de cette manière, c'est d'abord parce que ça le touche, parce que ça le gêne, parce qu'il dit que ça peut risquer de faire capoter ce voyage où il est la seule voix qui explique un peu où il essaye d'expliquer aux Libanais qu'il veut. Donc, il n'aurait pas dû, mais il faut le mettre sur le compte de la fatigue, de l'énervement.
Bien. Merci à tous les trois.
Europe 1, Julien Bouchier.
L'Europe Soir continue dans quelques secondes avec le débat des grandes voix, avec le journal de 19h évidemment. Et juste après, on ouvre comme chaque soir le club des idées. 100 milliards d'euros, ça fait beaucoup, mais est-ce que ce sera suffisant pour relancer la France? On en parle avec nos experts. À tout de suite.